Salut les auditrices et les auditeurs, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Transition. Dans cet épisode, on va revenir sur 10 ans de cardio-optique. On est en 2025 et puis si on remet un petit peu de contexte, en 2015, il y a 10 ans, les montres les plus haut de gamme du marché sont la Fenix 3 chez Garmin, la V800 chez Polar. Suunto vend la série Ambit 3 et puis Coros existe depuis moins d'un an et ne fabrique alors que des casques de vélo et pas de montres GPS. Il y a 10 ans, en 2015, c'est la toute première Apple Watch qui voit le jour en avril. Et puis cette année 2015, elle a ceci de particulier que c'est un tournant dans les technologies qui vont être intégrées dans les montres cardio GPS. Et en l'espace de 12 mois, entre le CES 2015 et la fin de l'année, quasiment l'ensemble du marché va proposer au moins une montre ou bracelet connecté avec un capteur cardio-optique. C'est le cas pour l'Apple Watch qui, dès le premier modèle, sort avec un capteur cardio-optique, la Forerunner 225, puis la Forerunner 235 chez Garmin, le bracelet Polar A360 et puis la montre TomTom Spark, les bracelets Mio aussi qui permettent la mesure de fréquence cardio-optique au poignet et puis qui vont retransmettre ces données aux montres qui n'en sont pas encore équipées. Donc on arrive clairement dans l'ère de la mesure cardiaque optique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'adoption sera super rapide puisque les montres Garmin Forerunner 230 et 235 qui sont annoncées en fin d'année 2015, alors que la 225 qui était la première à en être équipée est sortie durant l'été, se distingue uniquement la Forerunner 230 et 235, par la présence ou non d'un cardio-optique, ce sera la seule chez Garmin, puisque sur le CES 2016, la Fenix 3 HR est présentée avec un capteur cardio. Ensuite, toutes les montres de chez Garmin seront équipées d'un tel cardio-optique. Ce sera pareil pour Polar, mais qui mettra quelques temps en plus pour intégrer le cardio-optique à la M430, qui sortira en 2017. Mais ensuite, tous les modèles seront équipés d'un capteur cardio-optique. Suunto va lancer la Spartan Sport HR un peu plus tard, aussi en 2017. Et ensuite, les montres de Suunto intégreront quasiment toutes aussi un capteur cardio-optique. Coros, qui sortira sa toute première montre, la Pace, avec un capteur cardio-optique déjà intégré en 2018. Et puis, depuis là, toutes les Apple Watch qui sont sorties depuis 2015 ont leur propre cardio intégré. Si le succès de ces mesures optiques est si rapide, c'est que beaucoup de sportifs se plaignent de manière récurrente du confort des ceintures cardio. C'est vrai que sur des activités longues, certaines ceintures peuvent créer des irritations. C'est pas forcément super sympa à mettre en place et puis à porter pour des efforts très longs et certains types d'efforts. Mais en termes de mesure, il faut quand même dire que les ceintures cardio, alors, proposent des bien meilleures données de fréquence cardiaque que la mesure cardio-optique qu'on trouve dans ces montres entre 2015 et 2017. Donc si on revient un petit peu en arrière et puis qu'on imagine une montre de 2015 qui intègre un capteur cardio-optique comme la Forerunner 225 de chez Garmin qui, pour l'anecdote, est le seul modèle de chez Garmin qui a intégré un cardio-optique qui n'était pas conçu par Garmin. La Forerunner 225, c'était un capteur cardio qui était fourni par Mio, qui était acheté par Garmin pour l'intégrer sur la Forerunner 225. Dès la fin de l'année, Garmin propose le tout premier modèle de capteur Elevate sur la Forerunner 235 et puis sur d'autres modèles. Et là, c'est un développement interne de chez Garmin. Mais le tout premier, il est fabriqué par Mio. Les capteurs cardio-optiques, au début, ils sont vraiment utilisés uniquement pour la mesure de fréquence cardiaque pendant les activités sportives. Éventuellement, on a un widget qui permet de suivre la fréquence cardiaque au quotidien, en continu. Mais ça s'arrête à peu près là et c'est que en 2017 avec la sortie de la Fenix 5 que sous vraiment une nouvelle génération de montres qui intègre des algorithmes qui sont basés sur la mesure en continu de la fréquence cardiaque. C'est le cas par exemple sur la Fenix 5 du fameux widget de body battery qui sera intégré ensuite sur tous les modèles de Garmin qui seront vendus avec un capteur cardio-optique. Au début, pour fournir ces algorithmes, dont l'algorithme de body battery, Garmin conclut un partenariat avec la société First Beat, qui est une société nordique qui intègre de plus en plus de ces données physiologiques aux montres et autres accessoires, mais qui n'a pas pour client exclusif Garmin, qui fournit ses algorithmes notamment à Suunto, alors que Polar ou Apple, par exemple, développent leurs propres algorithmes et leurs propres mesures sur leurs montres, leurs bracelets connectés ou autres accessoires. Si on prend l'exemple de Polar, par exemple, ils vont introduire d'abord Recovery Pro, et puis ensuite, peu de temps après, le Nightly Recharge, qui est un des premiers algorithmes intégrés à une montre de sport qui va utiliser la variabilité de fréquence cardiaque mesurée pendant la nuit. Coros, Garmin et Suunto vont suivre sur cette mesure, et aujourd'hui on trouve cette mesure de variabilité de fréquence cardiaque sur quasiment tous les modèles. Et ce qu'on voit plus globalement, c'est qu'entre 2015 et 2019, l'arrivée du capteur cardio-optique a ouvert plein de nouvelles possibilités qui étaient inimaginables tout simplement sans ces capteurs sur les montres cardio-GPS n'en intégraient pas, puisqu'il n'était pas possible par exemple de mesurer l'intégralité d'une nuit de sommeil avec de la variabilité de fréquence cardiaque si on devait porter une ceinture pour que la montre puisse lire les données de fréquence cardiaque. Mais aussi, depuis le début, les capteurs cardio souffrent d'un problème, c'est la fiabilité de la mesure. On a la couleur et le type de peau qui peuvent influencer la performance de la mesure, les tatouages, on a la morphologie de chaque individu, et puis c'est des capteurs qui fonctionnent très mal par temps froid, parce que la vasoconstriction fait que la lecture optique du flux sanguin est beaucoup plus difficile. Il y a donc beaucoup de facteurs qui influencent la mesure et les résultats qui sont généralement imparfaits, voire parfois complètement farfelus suivant les cas d'utilisation. Alors les technologies vont se développer, la plupart des marques vont développer leurs propres capteurs. Aujourd'hui c'est le cas pour Polar, Apple, Garmin et Coros. D'autres comme Suunto vont utiliser des capteurs produits par d'autres. Au début c'est des capteurs Valencel, ensuite ça a été des capteurs LifeQ, et puis récemment sur les derniers modèles de Suunto on trouve des capteurs Xiaomi. Les fabricants vont essayer d'ajouter des LED de couleurs différentes, vont multiplier les capteurs et puis le nombre de LED. Mais finalement, les résultats ne sont pas franchement beaucoup meilleurs. En général, on a toujours les mêmes tendances, c'est-à-dire qu'un capteur fonctionne plus ou moins bien à des fréquences cardiaques basses à moyennes. Par contre, dès que les fréquences cardiaques s'élèvent ou changent brutalement, la lecture est plus compliquée. Et puis, lors de mes tests, entre aujourd'hui en 2025 et puis les premiers tests de capteurs cardio-optiques que j'ai fait en 2015 sur la Forerunner 225, je peine franchement à affirmer que j'ai vu à un moment une nette amélioration globale du marché des capteurs cardio-optiques. Je ne peux pas vraiment affirmer qu'à un moment, il y a eu un basculement. Sur moi, personnellement, les capteurs cardio de chez Apple sur les Apple Watch ont toujours pas trop mal fonctionné. Récemment, les capteurs de chez Garmin ont commencé à fonctionner un petit peu mieux. J'ai eu des bons espoirs en testant la dernière Suunto Race 2, mais par contre, le même capteur sur la Vertical 2 a donné des moins bons résultats. Et puis, globalement, ça dépend vraiment des cas d'utilisation, mais sur le test d'une montre cardio qui intègre un cardio optique, sur la durée du test qui dure en général à peu près un mois, il y a toujours un, deux ou trois tests qui viennent contredire les 10 ou 12 autres qui sont plutôt corrects, mais qui viennent complètement saper la confiance que je peux avoir éventuellement dans le capteur. Parce que si un jour le capteur ne fonctionne pas correctement, je ne peux pas être certain au moment où je le regarde sur une compétition ou une séance importante qu'à ce moment-là, il est en train de mesurer précisément et de manière fiable ma fréquence cardiaque. Aujourd'hui en 2025, sortir un produit de santé, bien-être, un produit sportif, une montre, un bracelet connecté, une bague, un brassard, sans un capteur cardio-optique, ça semble tout à fait impossible. On en met quasiment dans tout ce qui peut mesurer de l'activité sportive ou de la fréquence cardiaque. On en met dans les oreilles avec en exemple les derniers AirPods Pro 3 de chez Apple. On les met sur la tempe avec les lunettes de natation Forme 2 par exemple. On les met autour des doigts avec les bagues, notamment les bagues Oura, on les met au poignet, que ce soit avec des montres, avec des bracelets de suivi d'activité quotidienne. On les met sur l'avant-bras ou sur le biceps pour les brassards de mesure de fréquence cardiaque optique. Mais il reste que si on veut s'entraîner avec des données sérieuses, eh bien, la ceinture cardio reste quasiment incontournable. Ceci aussi parce que depuis le début, les capteurs cardio, même si éventuellement ils se sont améliorés un peu en mesure de fréquence cardiaque, ils ont toujours de la peine ou sont toujours incapables parfois de mesurer les intervalles RR et donc de fournir des données de variabilité de fréquence cardiaque qui sont nécessaires et qui nourrissent un très grand nombre d'algorithmes. Et paradoxalement, en fait, on a de plus en plus d'algorithmes sur nos montres qui vont utiliser la variabilité de fréquence cardiaque, notamment pendant l'effort. C'est le cas par exemple de l'estimation de la VO2 max, de l'estimation de la charge d'entraînement. On a énormément de paramètres qui vont utiliser la variabilité de fréquence cardiaque. Et cette variabilité, elle est mesurée avec grand peine par les capteurs optiques. On obtient de bien meilleurs résultats dans ces widgets si on porte une ceinture pendant les séances d'entraînement. En dehors de l'effort, lorsqu'on porte sa montre au quotidien, le capteur cardio-optique est généralement suffisant ou en tout cas donne des données satisfaisantes sur la mesure de variabilité de fréquence cardiaque. Et donc, par exemple, la variabilité de fréquence cardiaque nocturne, pour laquelle on imagine assez mal quand même porter une ceinture, eh bien, donne des résultats qui sont généralement satisfaisants en portant uniquement sa montre cardio-optique au poignet pendant le sommeil. Donc au final, si on veut se fier aux algorithmes de sa montre, comme l'estimation de VO2 max par exemple, pour avoir des données les plus précises possibles, ou sur sa charge d'entraînement, ou sur les prédictions de temps de course, etc., eh bien l'utilisation d'une ceinture reste quasiment obligatoire, à moins qu'on se contente de données qui pourraient être quand même passablement approximatives, ou vraiment si on accumule énormément de données avec son capteur cardio-optique, on peut estimer qu'avec une immense masse de données, on arrive peut-être à sortir quelque chose, mais c'est de loin pas encore sûr. Donc la ceinture reste vraiment un must pour mesurer ce type de paramètres. Et puis là, vous allez me dire, mais tu viens de dire, Greg, que la mesure, elle était OK quand on est au repos, mais pas pendant l'effort sportif. Alors qu'est-ce qui peut avoir tel impact, une telle différence? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un capteur cardio-optique, eh bien, va mesurer la variabilité de fréquence cardiaque avec une marge d'erreur qui est de l'ordre de 25 à 30 millisecondes dans ces mesures, et que tout ça, eh bien, ça a un impact en fonction de la fréquence cardiaque. Tout simplement, si je mesure une fréquence cardiaque au repos, typiquement pendant mes nuits de sommeil, si je suis entre 52 et 54 battements par minute, eh bien, ça donne une moyenne globale environ de 1100 millisecondes sur un intervalle RR moyen. Alors, on sait que chaque intervalle RR a une durée qui est différente de la précédente et de la suivante, c'est ça qui est intéressant dans la variabilité de fréquence cardiaque, mais un ordre de grandeur de 1100 millisecondes pour un intervalle RR, si j'ai une erreur de 25 millisecondes sur cette mesure, ça représente 2% de marge d'erreur. Donc pendant mon sommeil, ma variabilité de fréquence cardiaque mesurée par ma montre va représenter une erreur type qui est de l'ordre de 2% sur la mesure. On peut considérer que c'est acceptable. Par contre, si je fais un effort intensif sur la piste et que je vais m'entraîner à des allures qui sont beaucoup plus élevées, qui sont entre 160 et 180 battements par minute, voire même 190, moi j'ai une FC max qui est proche de 200, là on a des intervalles RR qui sont entre 280 et 330 millisecondes. Donc la marge d'erreur de ces mêmes 25 millisecondes d'erreur sur le capteur deviennent alors des marges de près de 10% d'erreur. Et donc si on accumule des données avec 10% d'erreur sur des algorithmes comme par exemple la détection de VO2 max ou bien la prédiction de temps d'entraînement, eh bien une marge d'erreur de 10% sur une VO2 max qui est à 50, eh bien c'est une erreur de 5 points. Une erreur de 8% sur cette même mesure, c'est une erreur de 4 points. Et puis, si on prend 10% de marge d'erreur sur un marathon qui est couru en 3 heures, eh bien, c'est quand même 18 minutes. Donc, ça représente quand même une marge d'erreur qui est considérable. Et après 10 ans d'évolution, eh bien, les capteurs cardio ne sont toujours pas capables de mesurer plus précisément que ça la variabilité de fréquence cardiaque. Et en plus de tout ce qu'on vient d'évoquer sur la mesure, il faut rappeler que le poignet, c'est probablement le pire endroit pour mesurer de la fréquence cardiaque avec un capteur optique. On peut mettre le capteur à peu près n'importe où, on le voit dans les oreilles d'ailleurs avec les derniers résultats obtenus par les AirPods Pro 3. On peut mesurer sur l'avant-bras ou sur le biceps, c'est là qu'on place la plupart du temps les capteurs cardio-optiques. On a des résultats qui sont quand même nettement meilleurs. Il faut bien garder à l'esprit que c'est une mesure de fréquence cardiaque qui s'améliore. Par contre, la mesure de variabilité de fréquence cardiaque ici ne va pas forcément devenir meilleure. Alors forcément, elle est meilleure. Si on a 100% de succès en lecture de fréquence cardiaque, on aura quand même une meilleure lecture de variabilité de fréquence cardiaque, mais toujours avec les marges d'erreur que j'ai mentionnées précédemment. Si en plus, on induit des grosses erreurs en termes de mesure de fréquence cardiaque, comme c'est le cas souvent avec la mesure optique, évidemment que les marges d'erreur dont j'ai parlé sur les intervalles de variabilité de fréquence cardiaque, elles explosent et c'est plus de l'ordre de 8 à 10% qu'on a des marges d'erreur, mais c'est de plus de 50% et là ça devient complètement inutilisable. La mesure optique n'a pas non plus réglé un des gros problèmes qu'on avait avec les ceintures en 2015 et qu'on a toujours avec les ceintures aujourd'hui, c'est la mesure de fréquence cardiaque dans l'eau, notamment pour la natation, parce que lorsqu'on fait de la natation en piscine, eh bien porter une ceinture c'est une sacrée gageur, ça tient pas en place, ça glisse, ça fait des lectures qui sont pas optimales, et lorsque la fréquence cardiaque optique est arrivée sur le marché sur les montres, un des grands espoirs, notamment des nageurs, c'était d'avoir des données de fréquence cardiaque qui puissent être mesurées par ces montres. Et bien, force est de constater aujourd'hui que lorsqu'on met une montre au poignet et qu'elle mesure à peu près correctement la fréquence cardiaque, si on la plonge dans l'eau, la lecture devient beaucoup, beaucoup plus aléatoire et donne des résultats qui sont bien inférieurs et souvent qui sont complètement inutilisables. Lorsqu'on nage avec une montre qui flotte un petit peu sur le poignet, qui a de l'eau qui vient s'insérer entre le capteur et la peau, et on a des lectures qui sont complètement aléatoires pour la grande majorité des sessions de natation qui sont réalisées avec. Mais malgré leurs limitations de lecture, il ne faut pas oublier tout ce que ces capteurs cardio-optiques nous ont apporté dans la pratique sportive et dans notre mesure de santé quotidienne avec les montres. On a aujourd'hui des montres qui peuvent détecter toutes seules des alertes de fréquence cardiaque anormalement élevées ou anormalement basses. On a des mesures globales de santé sur la variabilité de fréquence cardiaque pendant plusieurs nuits d'affilée qui nous donnent des tendances qui nous disent presque avant qu'on le ressente, qu'on est en train de tomber malade ou qu'on a un coup de moins bien. Et puis, tous ces algorithmes, même si parfois ils nous inondent d'informations sur notre santé et notre bien-être, eh bien certains peuvent être particulièrement utiles pour détecter de manière précoce quelques pathologies ou autres problématiques qu'on va pouvoir traiter de manière plus anticipée que si on n'avait pas du tout eu ces données-là. Et puis, ces capteurs, ils ont aussi amélioré quand même la mesure, par exemple, de calories dépensées à l'effort, l'intensité de l'effort qui était mesurée de manière complètement empirique sur les montres lorsqu'on portait pas de ceinture cardiaque et qu'on allait s'entraîner sans capteur cardio-optique, puisque là la montre eh bien, elle se basait uniquement sur la durée et le type d'activité pour calculer le nombre de calories et puis la charge d'entraînement. Donc maintenant, même avec une mesure très aléatoire de la fréquence cardiaque avec un capteur cardio au poignet, eh bien, on obtient des données qui sont quand même bien meilleures. C'est ici quelques exemples, il y en a bien d'autres qui ont été apportés par cette mesure cardio sous nos montres. De toute façon, on imagine assez mal aujourd'hui un fabricant de montres proposer une montre sans le capteur au dos de la montre pour mesurer tous ces paramètres. Vu le nombre de widgets, d'indicateurs et autres qui dépendent de cette mesure sur la montre. Donc, l'avenir nous dira si un jour on pourra ranger définitivement nos ceintures au fond du tiroir et puis les oublier. Pour l'instant, elles restent un must pour l'ensemble des entraînements sur lesquels on veut une donnée absolument fiable de la fréquence cardiaque, pour une donnée absolument fiable sur les algorithmes qu'on va utiliser, notamment pour les prédictions de course, pour la VO2 max, éventuellement pour la détection de la FTP aussi sur le vélo si on utilise aussi un capteur de puissance. Tous ces indicateurs là auront des données qui seront bien meilleures en sortie si on porte une ceinture par rapport à la fréquence cardiaque au poignet. Je ne sais pas si dans 10 ans j'enregistrerai un nouvel épisode de podcast pour dire que cette fois j'ai pu ranger la ceinture de fréquence cardiaque définitivement, que je peux faire tous mes comparatifs de mesure et de performance avec un brassard cardio-optique ou une montre à mesure cardio-optique au poignet. J'ai quand même assez peu d'espoir. J'imagine que si en 10 ans toutes les sociétés technologiques qui nous proposent des montres et autres capteurs n'ont pas réussi à résoudre ce problème technologique, c'est que fondamentalement, il y a quand même un problème quelque part avec cette technologie où on n'arrivera pas forcément à pousser la mesure à un tel niveau qu'une mesure de qualité ECG qu'on obtient avec une ceinture. Donc il est quand même probable que dans 10 ans, je continue à courir mes marathons avec une ceinture thoracique pour la mesure de ma fréquence cardiaque si je veux des données absolument fiables au niveau de cette lecture. Voilà pour cet épisode qui retraçait un petit peu 10 ans d'évolution de mesures cardio-optiques sur les montres. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Moi, je vous retrouve bientôt dans un prochain épisode du podcast Transition. Vous retrouvez également toute l'actualité du sport connecté sur nakan.ch et les réseaux sociaux et aussi sur la chaîne YouTube. À très très bientôt dans le podcast.